Merci beaucoup.
Dont l'intitulé est, je te laisse le dire.
Alors, je pense que sur le dépliant, vous avez l'intitulé, c'est la pensée du poème, avec une déclinaison autour de l'idée de la vibration du sens. Alors, je vais tenter de, en quelques pages, rassurez-vous, ça ne sera pas très long, d'organiser une sorte de parcours sur cette question, la poésie pense et la poésie sait, fait savoir. Donc je propose d'introduire de la manière suivante, de troubler les pistes en quelque sorte, du moins les chronologies, étant entendu que dans le champ de l'art, leur pertinence est toute relative. Donc si la poésie, au-delà d'une mise en forme, d'une techné, est intelligence d'une époque, si elle éclaire la circonstance et si elle est éclairée en retour par les gémissements du siècle où sa pratique et son action se déploient, refonde-t-elle pour autant en chaque poème actualisé l'acte même de pensée et l'objet de cette pensée? La pensée du poème, au sens équivoque de ce génitif. D'une part, une pensée qui prend pour thème le poème en lien avec l'actualité, notre temps est-il en capacité de penser le poème, autrement dit de l'accueillir en tant que tel, forme exigeante et troublante, marquant les limites et les errances des usages communautaires du langage, l'effet de la poésie devenant alors un véritable enjeu du poème, et d'autre part, une pensée qui se formule et s'accomplit sur le mode même du poème, véritable creuset de son devenir, de son pouvoir émotif. Certes, le génitif est un cas qui parfois se mord la queue, se retourne sur lui-même, mais s'il y a discussion sur l'ambiguïté qu'il suscite en l'occurrence, pour désontologiser l'approche du poème au profit d'une conception qui va privilégier la pratique propre au poème dans le sillage, par exemple, de ce que Hermann Broch, l'auteur de La mort de Virgile, exigeait que fût la poésie, identique en cela, disait-il, à la science, dans son souci de validation de l'expérience, une recréation constante du monde, et que, saturée d'une connaissance devenue vision, elle inclut toute activité pratique et sensible de l'homme. Traversant, dépassant, voire sublimant au sens chimique du terme, la sensation submergente, l'immédiat, la poésie témoigne d'un frottement avec la réalité dans une volonté d'équilibre ou de désordre, au choix, avec le monde qui nous engendre et nous cerne, tout autant qu'avec celui que chacun porte en soi, celui qui nous ouvre, au risque de vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir. La poésie sait, dans les temps de crise, trouver d'autres chemins comme une eau souterraine. Elle sait se dresser contre, interroger les prises de pouvoir, témoignant ainsi que la langue n'est pas seul outil de conquête ou de défaite. Pour reprendre une formule d'Aragon, la poésie est un scandale comme un autre, pierre de scandale, pierre d'achoppement, pierre de touche. Cet éclat au milieu du chemin, si cher à Carlos Drummond de Andrade, souvenez-vous. Au milieu du chemin, il y avait une pierre. Il y avait une pierre au milieu du chemin. Il y avait une pierre. Au milieu du chemin, il y avait une pierre. Jamais je n'oublierai cet événement dans la vie de mes rétines fatiguées. Jamais je n'oublierai qu'au milieu du chemin, il y avait une pierre. Il y avait une pierre au milieu du chemin, au milieu du chemin, il y avait une pierre. Et si cette pierre, nous l'imaginions, pierre précieuse. Ainsi, dans le dépliement des paradoxes du poème, la poésie assure-t-elle un avenir de la langue, de la pensée au plus intime. Sous de multiples formes, la poésie donc fait sombrer en lui-même le langage pour le refonder, lui restituer une intention et une adresse, redonner vie à ce corps anonyme distribué et partagé humainement par autant d'idiomes, sans oublier, avec Jacques Derrida, que la langue n'appartient pas. La poésie serait-elle alors l'extrême pratique capable de redéfinir dans et par chaque poème un régime de véridiction dans le refus d'une inertie conservatrice toujours tentante, car rassurante, affirmant à l'inverse son ouverture à tous les possibles, à toute forme créative. Le poème « Quelque chose à quelqu'un », qu'accomplit-il ainsi en tant que tel ? Quel est son effet ? Quelle est son action ? Si on ne l'enferme pas dans une conception essentialiste, faisant de lui un avatar hermétique de la pensée, négatif obscur d'un positif philosophique. Le poème a-t-il une mission ? Et le poète en serait-il l'élu, le missionné, missionnaire, dans son siècle épouvanté ? À la question d'Hölderlin, posée de manière étonnante à la fin de la septième strophe, l'antépénultième de l'élégie Brot und Wein, Le pain et le vin, publié en 1800, écrit en 1800, qui ne laissait prévoir pareil soulèvement, je cite, « Mais, amis, nous venons trop tard. Certes, vivent les dieux, mais par-dessus les têtes, là-haut, dans un autre monde. D'ici là, il me semble souvent qu'il vaut mieux dormir que d'être ainsi sans compagnon, et d'attendre. Que faire et que dire pourtant, je ne sais. Et pourquoi des poètes en un temps de manque ? Ce fameux vers, hein, « Weiß ich nicht und wozu Dichter in dürftiger Zeit ?» À cette question d'Hölderlin, question de fond, vraiment, Julien Pierron, de l'Université de Liège, nous rappelle en plusieurs temps que Rimbaud ajoutait, le 15 mai 1871, dans sa célèbre lettre du voyant adressée à Paul Demny, « Cet avenir de la poésie sera matérialiste, vous le voyez, toujours plein du nombre et de l'harmonie, ces poèmes seront faits pour rester. » Au fond, ce serait encore un peu la poésie grecque. L'art éternel aura ses fonctions, comme les poètes sont citoyens. La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Et dans ce sillage, toujours, Mallarmé, quant à lui, répondait au journaliste Léo Dorfer dans sa revue La Vogue, en avril 1886. Vous connaissez sûrement cette phrase célèbre et admirable. La poésie est l'expression par le langage humain ramenée à son rythme essentiel du sens mystérieux des aspects de l'existence. Elle doue ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle. Et plus près de nous encore, René Char précisait sur la poésie 36-74, le dessein de la poésie étant de nous rendre souverains en nous impersonnalisant, nous touchons, grâce au poème, à la plénitude de ce qui n'était qu'esquissé ou déformé par les vantardises de l'individu. On ne peut pas commencer un poème sans une parcelle d'erreur sur soi et sur le monde, sans une paille d'innocence au premier mot. À cette question donc d'Hölderlin et au sillage, cette question toujours présente ne cesse d'intriguer les poètes. Et de nouveau, d'une manière plus récente, Jean-Christophe Bailly, en 1978, la pose de nouveau à Beckett, par exemple, qui lui fait cette réponse. Cher monsieur, wozu, je n'en ai pas la moindre idée. Pardonnez-moi. Cordialement à vous, Samuel Beckett. Ce qui nous conduit à la plus récente réflexion, toujours sur ce thème, réflexion à forte teneur politique, cette fois, qui reformule la question en reprenant les derniers mots qu'écrivit Kafka en 23 dans son journal. « Mehr als Trost ist, auch du hast Waffen. » Plus que la consolation est, toi aussi, tu as des armes. C'est une réflexion collective, cette fois, qui réunit 9 propos, à la fois convergents et contradictoires d'écrivains contemporains, qui, pour la plupart, ne revendiquent pas le titre de poète, d'ailleurs, notons-le. On trouve parmi eux Jean-Marie Glaise, Véronique Pitolo, Nathalie Quintane, par exemple, dans un ouvrage paru en 2011 à La Fabrique, sous le titre « Toi aussi, tu as des armes » et qui postule, dès l'introduction, que la poésie est une opération pratique, concrète, où l'on ne se raconte pas d'histoire et où l'on pense l'art comme un acte individuel, certes, mais aussi comme un lieu public, une scène ouverte. Je prolongerai volontiers ces propos en vous invitant à lire la récente analyse de Laurent Zimmermann, un collègue de Paris 7 Diderot, publiée dans lemonde.fr en octobre dernier, dont voici un court extrait. Où en est-on par rapport à la poésie ? la pensée du poème. La question peut sembler assez vite tranchée. La poésie n'a plus guère, plus assez de place dans le débat public, comme le rappelait récemment Michel Legui. Ce constat a appelé une résistance de la part des poètes et de ceux du moins qui se soucient de la place du poème et du poétique dans la vie commune. C'est que quel que soit, comme le souligne Philippe Beck, le fermé de l'époque, reste quelque chose, la nécessité d'un renouvellement de la langue qui permette de se tourner vers la vraie beauté. Une beauté qui est indissociable aussi d'une possibilité de penser autrement, de laisser à la pensée, par la langue, le moyen de rester ouverte à des chemins imprévus. L'époque n'est guère celle de la poésie, ajoute-t-il, et pourtant, selon la formule de Kobayashi Issa. C'est un haïku bref. Rosée de ce monde, rosée que ce monde-ci, oui, sans doute, et pourtant. Et pourtant, en effet, insistance de la poésie, comme nous l'avons réaffirmé ici même en décembre dernier avec nos amis du marché de la poésie. Enjeu essentiel de la poésie qui, par l'hybridation des genres, sort d'elle-même et convainc dans ce mouvement et sa nécessité d'être plus encore aujourd'hui. Car la poésie, au-delà du témoignage dont il fut abondamment question hier, testimony, comme l'a sublimement développé Charles Reznikoff, la poésie est invention, questionnement, et elle désire faire savoir. Oui, la poésie fait savoir elle aussi. Or, que c'est-elle ? La nature, la terre et le soleil, n'est-ce pas Jean-Luc Parent ? L'enfer et le paradis, ce mythe étrange et fatal qui adresse des reproches à Dieu. Elle sait les corps, les sexes et l'amour, l'histoire et ses codes, le chant et le râle humain, les objets et leurs formes, les blessures, les repentirs, les couleurs ou le noir, son silence et ses cris. Elle sait l'aventure, elle sait se perdre, tomber bas, se relever, assumer les crises, frapper à la porte des langages qui nous entourent, sans exclusive, jusqu'à celui des sciences, les plus froides, des plus froides aux plus abstraites. N'est-ce pas Benjamin Perret ? Là, je marque une pause pour vous faire redécouvrir ce magnifique poème. 26 points à préciser, qui est une autobiographie de Benjamin Perret. Ma vie finira par petit a, je suis petit a, moins petit a, etc. On passe par avec ma langue je lis, avec ma bouche je mange, avec mes yeux je vois, avec mes oreilles j'entends, avec mes mains je gifle, avec mes pieds j'écrase, avec mon sexe je fais l'amour, la longueur de mes cheveux, mon travail du matin, mon travail de l'après-midi, mon sommeil, ma fortune, ma date de naissance. Bien sûr que on ne peut pas imaginer plus rapprochement plus fort entre ces deux types de langage. Et je me suis assuré auprès de collègues compétents en mathématiques, n'est-ce pas Jacques Roubaud, qu'on peut lire aussi ce poème d'un point de vue mathématique. Donc, la poésie sait toutes ces aventures, ces rapprochements, et elle va même jusqu'à parfois étonner le poète qui se retrouve lui-même face à sa propre image, comme dans un poème déformant, dans une réelle sidération cosmique. N'est-ce pas, Éric Sucher, David Christoffel, ou Hortense Gautier, qui était une sorte de constellation éphémère dans ce numéro 7 de la revue Espace du Centre national d'études spatiales, par exemple. Ou bien, comme Caroline Sagot-Duvauroux, Les pieds sur terre, poète arpenteur du Jardin des plantes au Muséum d'histoire naturelle. La poésie sait les formes et leurs usages. Elle connaît les langages. Elle les conduit à leur dépassement, parfois à leur disparition, à leur renaissance. Ainsi, elle troue le monde, elle arrache à la réalité ce qui refonde le réel, le sens commun, la présence incontestable du poème dans sa langue. La poésie nous fait savoir qu'il est imprudent, je cite, de spéculer sur l'innocence des mots, que leur sens ne va pas sans mélange, que l'on n'est pas prêt de déterminer dans quelle mesure le sens figuré agit progressivement sur le sens propre. La poésie d'aujourd'hui offre à cet égard un champ d'observation unique, écrivait André Breton en 1924 dans Les Pas perdus. Enfin, La poésie fait savoir, elle constitue un savoir, mémoire des sociétés, des formes et des voix. Elle conserve et alerte à la fois, car elle porte l'empreinte polymorphe de nos langues, et elle s'élève contre le monde indifférent pour nous permettre de supporter, de sublimer les états imprévus et blessants du langage et des pratiques humaines. Douée d'une capacité résurrective, d'un pouvoir et d'une force de métamorphose successive, la poésie, il me semble, se rend publique, s'offre en partage avec patience et gratuité. À travers les soupirs de la sainte et les cris de la fée, elle connaît l'art du trouble, de la chose et son contraire, l'art du lien, enfin, elle sait se nouer sur la treille où le pan prend la rose salie, aux formes saillantes et aux traces les plus discrètes ou les plus violentes de nos actes, échecs ou réussites. La poésie pense, la poésie sait. Elle donne, avec Emmanuel Occart par exemple, les conditions de lumière. Une lumière rapportée, les objets s'installent durablement à l'intérieur du cadre. Fragments de personnages couchés, lire et disposer. Jour défini par nuit, corps par un autre, en train de disposer, pluralité des rôles et des masques, des statues parlantes. Et permettez-moi cette coda un peu étrange pour clore mon introduction. Voici un extrait de l'entretien entre d'Alembert et Diderot, 1769. C'est la suite de l'entretien, donc la troisième partie qui termine cet entretien et qui met en scène les deux personnages que vous voyez à l'image. Sur les 2 heures, je cite Diderot, le docteur Bordeux revint. D'Alembert était allé dîner dehors et le docteur se trouva en tête-à-tête avec mademoiselle de Lespinasse. On servit. Ils parlèrent de choses assez indifférentes jusqu'au dessert. Mais lorsque les domestiques furent éloignés, mademoiselle de Lespinasse dit au docteur « Allons docteur, buvez un verre de Malaga. Vous me répondrez ensuite à une question qui m'a passé 100 fois par la tête, que je n'oserais faire qu'à vous. » Bordeaux. Il est excellent ce Malaga. Et votre question? Que pensez-vous du mélange des espèces? Ma foi, la question est bonne aussi. Votre question est de physique, de morale, mais surtout de poétique. De poétique? Sans doute. L'art de créer des êtres qui ne sont pas, à l'imitation de ceux qui sont, est de la vraie poésie. Cette fois-ci, au lieu d'Hippocrate, vous me permettrez donc de citer Horace. Ce poète ou faiseur dit quelque part « Omne tulit punctum qui miscuit utile et dulci » le mérite suprême est d'avoir réuni l'agréable à l'utile. Et nous relèguerons au rang infime l'action qui ne rend ni plaisir ni profit. Mademoiselle de Lespinasse, jusque-là, je puis être de votre avis sans rougir. Mais où cela nous mènera-t-il ? Théophile de Bordeaux posant son verre de Malaga, fermant les yeux lentement, et comme à son tour plongé dans une profonde rêverie, eût pu ajouter, pardonnez-moi l'audace, en citant Mallarmé par anticipation, « Ainsi, quand des raisins, j'ai sucé la clarté, pour bannir un regret par ma feinte écartée, rieur, je lève au ciel la grappe vide. » Et soufflant dans ses peaux lumineuses, avide d'ivresse jusqu'au soir, je regarde au travers. Qu'a-t-il vu, Théophile de Bordeaux, qu'a-t-il pressenti à travers ce rêve de faune et dans cet instant de solitude auprès de Julie de Lespinasse? Que d'Horace à Mallarmé le chemin était tracé? Dans cette même livraison de la revue La Vogue, où on lisait, souvenez-vous, la poésie et l'expression par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l'existence, était en effet reproduit l'art poétique d'Horace, traduit en vers français par Jacques Pelletier-Dumont. Ça se boucle. Ainsi, je conclurai maintenant, que verront pour nous aujourd'hui Gérard Massé et Christian Doumet, Alain Aubé et Martin Rueff, Cécile Portier et Philippe Dimeo. Quelles vibrations du sens ont-ils perçues à travers leurs œuvres? Quelle connaissance par le verbe la poésie leur a-t-elle apporté pour conjurer celle plus obscure peut-être qu'Henri Michaux puisait par les gouffres? Je leur cède la parole et les remercie par avance des risques qu'ils vont prendre devant nous.
Merci. Merci beaucoup Yves de cette, on appellerait ça performance si tu en étais d'accord. Merci infiniment.